On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Mais t'as l'air de voir French.
Tu as un mec une biche?
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Tu crois qu'il y a au monde quelqu'un de plus rapide que lui?
Plus rapide que lui? Personne.
C'est très fort.
Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.
Chers amis cinéphiles, bonjour, bonjour et bienvenue dans la 99e émission de Ciné Essentiel Club. Rendez-vous compte, 99 émissions déjà. On approche de la fin de la saison. Vous voyez ce petit air estival qui plane dans l'air, mais qui ne vous empêche pas, j'espère, d'aller dans les salles obscures qui ont réouvert, rappelons-le, depuis quelques temps. Alors, émission un peu spéciale aujourd'hui, car vous le savez peut-être, c'est la semaine de la radio libre, ou plus exactement des 40 ans de la radio libre. C'est-à-dire qu'en 1981, les radios étaient libérées, comme dirait le général de Gaulle. Et bien cela a donné naissance à beaucoup de radios, comme celle de RPL, bien sûr. Et ça a été une véritable révolution radiophonique. Donc nous allons, comme de nombreux camarades que nous avons sur RPL, rendre hommage à cette année 1981 qui a vu l'apparition de la radio libre. Et pour cela, nous allons bien vous parler de différents sujets en rapport évidemment toujours avec le cinéma et l'année 1981. Et puis on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et la première surprise d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'avoir parmi nous un invité, JS. Bonjour JS.
Bonjour Sébastien.
Nous sommes
merci
ravis.
Écoute,
c'est un plaisir. En plus, tu viens en voisin, toi, tu habites le quartier, c'est
voilà,
ça,
c'est de... ça juste de l'autre côté de la voie ferrée en fait. Je suis un traître, j'habite à Saint-André.
Ah mince, moi t'étais presque parfait, c'est dommage.
Désolé, j'avais pas le budget pour Lambersart.
On te garde quand même, on te garde quand même.
C'est gentil.
Parce que rappelons que RPL, c'est pour Radio Paco Lambersart. Mmh. Donc nous sommes ravis d'accueillir un voisin du quartier Paco. Donc JS Cinéphile qui va être avec nous et qui va nous faire, dans quelques instants, la première séquence dédiée à cette année 1981. Mais nous avons également deux fidèles chroniqueurs, parmi eux Anthony Plomion. Bonjour Anthony.
Salut Sébastien.
Alors toi par contre, tu vas pas parler de 1981 et de la radio, tu vas parler de ta spécialité, ça va être...
True Story,
voilà.
J'ai deux sujets au choix, donc soit okay. True Story, soit voilà. On parlera de doublage.
C'est très bien, il était important de... Ah, t'as pas encore décidé de quoi t'allais parler en fait?
C'est comme tu le sens.
C'est... Ça va être surprise.
Vraiment, ça sera comme tu le sens toi. Donc ça, ce sera bien, écoute, juste après Jean-Sébastien, toujours dans la première partie de l'émission, et après une petite pause musicale, nous aurons Michel. Bonjour
ouais,
Michel.
Bonjour.
Ça va?
Oui, bien.
Bon, et toi, par contre, tu vas nous parler d'un film de 1981.
Oui.
C'est bien
oui,
ça
wow.
C'est pareil, tu gardes le suspense, j'imagine.
Ouais, je crois.
C'est devenu une mode dans l'équipe.
Oui.
Très bien. Et je terminerai, s'il reste un peu de temps, sur une rétrospective de cette année 1981 d'un point de vue cinématographique. Ben écoutez, je vous propose de commencer. Tu es prêt, ton
ben, oui.
JS
ben, oui, c'est parti.
Allez,
c'est
alors
parti.
Attends, JS, tu
y a
sais
un
quoi
jingle.
Ah ouais, on a
ah,
même
alors,
des jingles.
Jingle. J'aime bien moi, ça.
Carte blanche à JS, c'est tout de suite.
Ciné Social Club. Carte blanche.
Alors JS, quel est donc ce film de 1981 dont tu vas nous parler?
La chèvre, ça vous rappelle quelque chose, je pense. C'est avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Je vais faire un petit pitch assez rapide parce que c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. La fille d'un grand PDG très malchanceuse se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique. Pour la retrouver, son père écoute les conseils de son psychologue d'entreprise.
D'après moi, la seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Un type comme vous ne peut pas la retrouver parce que vous êtes normal. Tandis qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes pots de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire.
Perrin et Campana partent à la recherche de la fille du PDG. Alors, j'ai pas vraiment envie de revenir sur l'histoire du film, j'ai plutôt envie de m'attarder sur cette fameuse malchance que l'on voit dans le personnage de Pierre Richard. C'est poussé un peu à l'extrême au niveau de la récurrence de cette malchance, mais pour autant, les situations sont quand même crédibles. Et le plus drôle, c'est quand le malchanceux joue au gros dur oui. en oubliant qu'il n'a jamais de chance.
Il est à moi le chariot là, hein?
Pardon?
Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages.
Mais vous fâchez pas, c'est pas marqué dessus qui est à vous le chariot.
Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche.
Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez.
Vous m'avez traité d'abruti?
Oui.
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben, tire-toi alors.
Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés.
Gros connard.
Vous avez de la chance. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
Ça va faire mal, attention.
Il se prend la porte, là.
Oh là 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 là.
Voilà. Tiens, ben voilà, on est à l'aéroport. Jusque-là, c'est pour prendre un avion. Et même si l'on est quelqu'un qui aime ça, voyager avec un poissard peut donner la pétoche à n'importe qui, surtout juste avant le décollage.
Vous aimez l'avion, vous ? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. C'était hors lieu au décollage. Les volets sont restés coincés. On n'a pas pu monter. On a quitté la piste, on s'est planté dans un champ. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère.
Bon, bah ça va.
Faut voir la tête de Depardieu.
Ouais. Ouais, il décolle pas, ce putain d'avion.
Vous avez remarqué, vous aussi. Ça y est, on a décollé.
Alors, je sais pas pour vous, moi j'aime bien cette sensation quand l'avion met les gaz décollage, mais je pense qu'avec Pierre Richard, en tout cas Perrin, je serais pas rassuré. Après l'avion, le fait de se cogner à plusieurs reprises, de tomber d'une chaise, c'est de tomber sur le truc le plus improbable, quelque chose qui n'est pas censé arriver.
Qu'est-ce qui vous arrive encore ?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Et vous vous enfoncez sans réagir ?
Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants.
Perrin ?
Y a pas
il n'y a
sable
pas
mouvant.
De sable mouvant signalé dans cette région.
Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler.
Alors vraiment pas de bol, hein, voilà, de voyager avec quelqu'un comme ça. Mais voilà, ce que j'apprécie vraiment dans ce film, au-delà de l'histoire qui n'a rien de transcendant, alors on va se le dire, le film en lui-même, c'est la capacité du malchanceux à être systématiquement les pieds dans le plat tout en étant à côté de la plaque. Comme lors de son arrivée dans un village brûlé, il fait référence à quelque chose qui lui est arrivé.
Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud.
Il y a une tornade à Saint-Cloud.
Non, j'avais acheté une bouteille de butane et...
Voilà, ça rassure vraiment. La chèvre, un film effectivement qui rassure les maladroits ou les personnes qui sont passées sous une échelle, mais qui va pas vraiment nous aider à nous relaxer quand nous sommes avec ce genre de personnes.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il est tombé ?
Sûrement, oui.
Alors j'ai une petite anecdote que je garde pour la fin. À un moment, il y a une guêpe qui se pose sur son visage dans le film et il panique et tout ça, ce qu'il dit, je suis allergique. Et en fait, bon, la guêpe avait été apprivoisée par rapport au tournage, ils avaient retiré le dard, tout va bien. Sauf qu'en fait, les personnes ne savaient pas qu'une guêpe, ça mord. Et en fait, Pierre Richard s'est fait mordre tout au long de la scène. Et après la scène, en fait, il a hurlé apparemment parce que ça lui faisait super mal. Il a eu la joue un peu gonflée parce qu'il s'est fait mordre par la guêpe et ça, c'était pas prévu.
D'accord.
Pierre Richard est en fait réellement un malchanceux en vrai. Voilà, c'était pour la chèvre en 81.
Une guêpe qui mord ?
Oui, apparemment, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le dard. Mais...
Elle est agressive.
Et voilà, une guêpe agressive. Voilà, j'ai fait le tour de cette malchance dans ce ciné-club.
Eh bien, nous avons beaucoup de chance, nous, de t'avoir aujourd'hui au micro. Merci pour cette chronique dédiée à La Chèvre, film de 1981, donc année, je le rappelle pour les auditeurs, de la libération de la radio. Donc c'est super sympa d'avoir passé ces extraits de film et de parler de ce film, parce que pour moi, c'est un film culte.
Bah oui, carrément.
C'est le premier de la trilogie, hein. Ce sera une trilogie, Les Compères et Les Fugitifs, je pense.
Je crois que c'est Les Fugitifs, le troisième.
Avec... ce duo Depardieu Pierre Richard sous la houlette de Francis Weber, si je ne dis pas de bêtises, et c'est le duo le gros dur et puis le poissard, hein, comme tu dis.
À la base, c'est Depardieu qui voulait avoir le rôle du poissard d'ailleurs.
Ah bon ?
Et qui n'a pas été très cool sur le tournage de La Chèvre en disant qu'il n'était pas content, donc il a fait des petites scènes d'alcoolisme et tout ça en étant bourré sur le tournage. Et voilà, c'est du Depardieu, du grand Depardieu. Quoi.
Mais il y est arrivé quelques années plus tard avec Jean Reno.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai. Film, ouais, c'est exact.
Ah
oui, je l'ai vu.
Quentin de Montargis.
Voilà, c'est.
Le Boulet.
Le Boulet, c'est avec Benoît Poulvorde. Quentin de Montargis, tout à fait. Ça, c'est dans Tais-toi.
Tais-toi,
oui,
voilà.
Exactement.
Tais-toi.
Et Le Placard aussi, avec Daniel Auteuil, où c'est là, il joue la personne où la situation s'inverse. Et c'est lui qui devient le poids lourd, pour le coup.
Depardieu,
ouais.
Il est dans le placard
okay. Avec Daniel Auteuil.
Oui, ouais. D'accord. Voilà. Et on a donc toujours ce personnage récurrent de François Pignon, hein, qui a été incarné par Pierre Richard, mais qui a été incarné aussi par...
Jacques Villeray,
tout à fait. Vous avez le troisième qui l'a incarné ? Alors, Catherine, il y en a quatre,
oui,
en fait.
C'est Jacques Brel dans...
Ouais, exactement, L'Emmerdeur.
Voilà, L'Emmerdeur, en 73. Voilà. Ah, j'avais bien aimé celui-ci.
Et Daniel Auteuil dans le placard. Quatre François Pignon pour le prix d'un. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose, j'ai l'impression.
Non, il y a sur les duos comiques, il y a une très bonne série qui s'appelle Rigolo sur YouTube, dont j'ai déjà parlé dans cette émission.
Ok.
Qui parle notamment de l'évolution de Depardieu, comment Depardieu est passé du beau gosse au boulet dans Tais-toi.
Ah, je l'ai vu cet épisode. Voilà.
C'est très intéressant, ouais. Et ça explique les mécaniques de duo comique.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, JS, d'avoir inauguré, d'une part, ta première apparition, si je puis dire, à l'antenne de RPL, et puis cette émission dédiée donc à l'année 1981 et aux 40 ans de la radio libre. On l'enchaîne avec un sujet qui n'est pas en lien avec cette émission spéciale, mais c'est pas grave. On a un petit peu en lien quand même.
Je vais trouver.
Ah, il va nous trouver un truc, Anthony. En tout cas, c'est une carte blanche dédiée à Anthony Plomion.
Ciné Social Club, carte blanche.
Donc oui, Sébastien, tu connais les tréfonds d'Internet, tout ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une true story, mais comme on a parlé de duo comique juste avant, il y en a un que vous devez sûrement connaître, c'est Laurel et Hardy.
Bien sûr. Oui,
donc duo d'acteurs américains, 25 ans de carrière dans plus de 100 films. Donc ils collaborent assez tard, hein, d'ailleurs, puisque leur premier duo n'a lieu qu'en 1926.
Ouais.
Donc ça paraît vieux, comme ça vous dit rien. Mais ils ont tous les deux la quarantaine à l'époque.
Et je pense que Stan Laurel a déjà fait une bonne petite carrière solo.
Ouais, ils ont déjà eu tous les deux une bonne carrière. Donc vous avez peut-être de ces deux personnages, deux images, ou plutôt deux sons en tête. C'est pour ça que j'en viens à la radio. En effet, ce sont les rares groupes d'acteurs à avoir su passer du muet au film parlant sans perdre de succès.
Oui.
Donc on connaît ces premiers films de Laurel et Hardy très cartoonesques, hein, basés sur les grimaces, les gags visuels, etc.
Ouais.
Et par la suite, ces dialogues à l'accent très anglais.
Oui.
Mais sauriez-vous me dire pourquoi Stan Laurel et Oliver Hardy ont justement cet accent ?
Moi je sais, mais je passe puisque...
Ils sont britanniques peut-être, non ?
Ben oui, parce que tout simplement ils sont américains, c'est aussi que ça, ouais.
Donc, non mais vas-y, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de doublage en fait.
Je crois que je t'en avais parlé.
Oui, c'est pour ça que je dis rien.
Donc l'explication de cet accent date en fait de l'avènement du parlant, la post-synchronisation n'étant pas encore au point, la nécessité de tourner plusieurs versions d'un même film s'imposait pour l'exportation.
D'accord.
Voilà, donc souvent des acteurs de langue étrangère en remplaçaient les vedettes, ce qui ne fut guère possible pour notre duo, Laurel et Hardy.
Ouais.
Aussi exécutèrent-ils eux-mêmes des versions françaises, espagnoles, italiennes et allemandes de leurs propres talkies, donc les films parlants, voilà, avec des accents très forts évidemment, parce qu'ils ignoraient les langues. En France, le succès de cet accent fut tel qu'il n'était plus concevable dorénavant de les doubler autrement. Donc même après, quand il y a eu des acteurs de doublage, les acteurs de doublage ont gardé cet accent américain.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite histoire d'introduction, je vous aurais donné envie de vous intéresser au doublage de cinéma.
Carrément.
Et d'autant plus que nous sommes en radio. Donc voilà, je trouvais que c'était bien, déjà avec les extraits à passer pour La Chèvre, on est plus à l'écoute des dialogues. Et s'il y a bien un sujet en plus de la musique et du bruitage où notre médium, la radio, a un avantage par rapport aux autres, c'est sur le son. Donc pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui ? J'avais envie de vous parler d'un vidéaste que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Mr. Fox. Donc d'abord auteur pour série MP3 à partir de 2007, Hugo Amisé, de son vrai nom, se fait connaître en 2010 sur la fameuse plateforme au logo rouge.
D'accord.
Mais celle qui fait pas Toudoum, voilà. Ce n'est qu'à partir de 2011 qu'il lance son format Parlons VF. Donc d'abord en podcast, puis en vidéo, Télérama le décrit comme le chevalier servant de la VF. Voilà, vous connaissez Télérama, hein ?
Oui.
En 2018, il s'oppose à une pétition pour interdire le doublage VF. Non pas pour faire valoir des positions pro-VF, mais pour considérer le doublage comme un enrichissement et non pas comme un substitut de l'œuvre originale, parce que certains disent oui, le doublage c'est comme si on repeignait sur la Joconde.
Ouais.
Donc non, ce n'est pas ça quand même, il ne faut pas exagérer. Mr. Fox est là pour nous expliquer que le doublage, ça n'est pas que de la traduction, c'est un travail de synchronisation, d'adaptation, de référence culturelle et humoristique, et que ça ne sert à rien de jouer les puristes, là je ne sais pas quoi. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous sur mrfox.fr, rubrique vidéo, ça vous redirigera sur la plateforme dont je n'ai pas envie de faire de la pub. Déjà 7 millions de vues, 76 000 abonnés, 311 vidéos au compteur, et apprenez-en plus sur vos films et acteurs de doublage favoris, Fight Club, etc. etc. Voilà,
Sébastien. Merci pour Anthony.
Ce vidéaste.
Ouais, tout à fait.
Et le doublage en France, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est que les droits d'auteur et les droits de rediffusion sont très très difficiles. Par exemple, j'avais entendu une interview d'Emmanuel Curtil, la voix française de Chandler dans Friends,
ouais,
ou de Clark Kent dans Lois et Clark, en fait, c'est-à-dire qu'ils enregistrent une fois, ils sont payés pour l'enregistrement, pour leur journée de travail, et à chaque fois que c'est multidiffusé sur toutes les chaînes, je prends l'exemple de Friends qui fête ses 20 ans cette année, en fait, les acteurs, eux, reçoivent les royalties, sauf que les doubleurs Eh ben en fait, ils ont catchy.
Ah ouais,
rien du tout.
Ah, c'est étonnant, ça, quand même.
Ils sont payés pour l'enregistrement, leur journée de travail, et c'est tout, point barre, bonne journée, messieurs.
Ah, c'est étonnant, quand même, qu'il n'y ait pas de système de droit d'auteur.
Ils essayent de se battre là-dessus, mais ça fait des années, et c'est pour ça que des fois, on a des changements de voix française dans les séries, parce que les contrats ne sont pas intéressants.
D'accord.
Voilà, alors, c'est difficile.
C'est intéressant, ce sujet du doublage, pardon.
J'en profite pour vous apprendre une chose que moi, j'ai appris en regardant cette chaîne. Ce sont les Français qui ont inventé la bande rythmo. Donc, la bande rythmo, c'est quand les acteurs lisent un texte, mais qui est calé sur un petit trait, pour que ça soit bien synchronisé avec les lèvres des acteurs.
D'accord.
Et je sais que, par exemple, c'est très dur. Et les Allemands qui font aussi beaucoup de doublage, qui doublent même toute leur production, en tout cas les productions étrangères, s'en foutent en fait de la synchronisation labiale. Donc, il y a tellement de voyelles de toute façon.
Ils laissent tomber.
Ils se focalisent sur d'autres aspects par contre.
Et alors, il y a des pays, je me souviens certains pays soviétiques avant. Je pense qu'il y a même encore des pays aujourd'hui qui font ça. C'est-à-dire que tu n'as pas de doublage, tu as quelqu'un qui commente en fait, qui prend de temps en temps les voix des acteurs pour dire, et qui fait une petite imitation en disant. Une seule personne qui fait toutes les voix du film et qui commente en même temps qu'il dit quelquefois quelques phrases clés. Quoi.
Alors en Russie, c'est encore comme ça.
Parce que
j'avais beaucoup de Russes quand j'étais étudiant dans mes promos. Et ils me disaient, les films en Russie, les acteurs doublent directement par-dessus le film original. Donc on entend la VO par derrière. Quoi.
Ah oui, une autre technique.
Il n'y a pas de budget particulier sur le doublage.
Okay.
C'est un peu à l'arrache.
Bon, merci pour ce petit focus sur le doublage. On va revenir à notre thématique 1980 et Radio Libre, en tout cas les 40 ans de la Radio Libre. JS avait lancé le sujet avec cette excellente comédie La Chèvre, et vous pouvez commencer à entendre quelques notes derrière moi d'un film culte quand même de 1981, Les Chariots de Feu, avec cette musique dont on se souvient tous, écrite par Vangelis. Alors, vous vous y voyez courant sur la plage, au ralenti.
Oui.
Plage.
Oui.
Je verrais bien,
Ben oui, non, mais si, c'est ce qui se passe dans ce film. À l'entraînement, il court. Et cette musique, on l'entend notamment à ce moment-là. Mais on l'entend aussi quand les coureurs entrent sur la piste des Jeux Olympiques à Amsterdam. Hein, c'était là que ça se passe. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont gardé la tradition pour le marathon de passer. Enfin, pas garder la tradition, plutôt, ils ont instauré une nouvelle tradition. Quand tu fais le marathon d'Amsterdam et que tu rentres dans l'ancien stade qu'on voit dans ce film, il lance cette musique de Vangelis. Alors ça doit durer très longtemps, hein, je pense.
D'ailleurs, musique qui est une petite phase du clip qui a été utilisée pour les JO de Londres aussi en 2012.
D'accord.
La cérémonie de clôture avec il y avait une petite parodie avec Mr Bean.
Ah oui, Rowan Atkinson.
Ah oui, oui, exact. Ouais. Alors les chariots de feu, un film qui a qui a connu un certain succès. On se souvient plus de la musique de Vangelis que du réalisateur, qui était quand même, Michel, rappelle-nous qui était le réalisateur.
Hugh Hudson,
voilà, c'est ça.
Yes, it is.
Ok, eh bien Michel, puisque tu as commencé à parler, je te propose, après ce petit jingle, de nous parler de ton choix d'un film de 1981, c'est bien ça?
Oui.
Ciné, Social Club, Carte Blanche.
Alors, quel est donc ce film mystérieux?
En fait, on va peut-être ébranler les idées, les notions de cinéma conventionnel, classique. Si je vous chuchote les noms d'artistes, John Cleese,
oui.
Michael Palin,
oui, mais
Monty Python, voilà.
Sacré Graal.
Bravo. Non, je vais parler de Bandit.
Ah, d'accord, ok. Ouais. Alors, c'est un des rares Monty Python que je n'ai pas vu.
Alors, Terry Gilliam, qui faisait partie de ce groupe anglais, les Monty Python, il a réalisé son premier film en 1981.
D'accord.
Qui s'appelle Bandit. Ok. Donc, avec les autres, c'était John Cleese,
Michael Palin.
Terry Gilliam, Eric Idle, Jones,
Michael Palin.
Mm. Ouais. Et ils ont tous les carrières super aujourd'hui.
C'est une troupe extraordinaire.
Décédés, je crois. Oui. Mais bon, donc Terry Gilliam faisait partie de la bande des Monty Python et c'était le groupe de comédie britannique burlesque et loufoque à énorme succès culturel et qui a commencé, comme tu viens de le dire, en 1969.
Ah oui.
Bandy, c'est le premier film réalisé et écrit aussi par Terry Gilliam et Michael Palin.
D'accord.
Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de ce film dingue. C'est un film, je pense, qui mérite d'être redécouvert, franchement. Alors Kevin, à 11 ans, il sera entraîné dans une aventure rocambolesque par 7 nains qui font intrusion dans sa vie, dans leur quête de s'éclipser d'un monde historique à un autre. Grâce à une carte du temps qu'ils ont volée de l'être suprême, Dieu.
D'accord.
Ouais. C'est quoi? En fait, les parents de Kevin sont trop occupés par l'écran de leur télévision. Et Kevin y plonge dans ses livres de fantasy avec les chevaliers, avec l'aventure, jusqu'au soir où un chevalier et les nains traversent sa chambre. Alors, ils ont volé cette carte de temps dans le but de mieux gagner la vie, car ils en avaient marre de travailler pour l'être suprême.
D'accord.
Ils étaient moins bien rémunérés. Grâce au trou de cette carte, nos personnages atterrissent dans d'autres périodes de l'histoire, par exemple de l'Antiquité grecque, les Moyen-Âge, l'époque de Napoléon, etc., en commettant des vols d'objets et de les vendre en traversant d'autres époques différentes. Alors, il faut regarder aussi la bande-annonce. Figure-toi que ça existe. Une bande-annonce qui est assez longue et fou.
D'accord.
Ou folle, pardon. Il est drôlement unique. C'est un film qui déborde d'imagination et, d'absurdité, qui fait rire car c'est assez osé pour l'époque, en fait, et qui avait pour but d'attirer toute la famille. Terry Gilliam, il voulait créer un film qui était intelligent pour les enfants et drôle pour les humains, pour les adultes.
Il n'était pas humain alors ce monsieur.
Juste révélateur.
Utilisant les 7 nains héros, le film a eu beaucoup d'impact auprès des enfants grâce à leur taille.
Okay.
C'est pour ça qu'ils étaient captivés par tout ce qui se passait, parce que le film est en mouvement perpétuel.
Ah ouais, j'imagine.
Note bien que les Monty Python figurent dans ce film, deux des Monty Python. John Cleese et il y a Michael Palin.
Okay.
À part eux, il y a Sean Connery également.
D'accord.
Catherine Helmond, grande actrice, et Ian Holm qui est grandiose. Il joue le rôle de Napoléon. C'était fabuleux. Alors, même si Terry Gilliam ne faisait plus partie des Monty Python, le film a évidemment beaucoup été influencé par des Monty Python, bien sûr, au travers de son scénario délirant, satirique et déjanté. Il y a des ambiances un peu sombres et traitées avec de l'humour, mais c'est une aventure à être vue. Le film a été réalisé sur un petit budget, moins de 5 millions de dollars, ce qui
donc
est
4 millions pour Sean Connery.
En fait, ils ont demandé à Sean Connery de jouer dans le film parce que Sean Connery avait besoin d'argent.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Oui.
Okay, ils ont eu un prix alors.
Ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient accepter. Okay. Alors, en fait, le budget était vraiment petit et il venait grâce à George Harrison des Beatles, qui avait à l'époque une société de production. Et en fait, la chanson Dream Away de George Harrison est également jouée dans ce film à la fin.
D'accord.
Ouais. Alors, petite anecdote. Savez-vous que Alfred Dupontel et Terry Gilliam ont une très grande histoire d'amitié?
Alfred Dupontel?
Oui.
C'est qui Alfred Dupontel? Albert Dupontel.
Albert.
D'accord, oui. Ok.
Celui qui ressemble à Jean Castex.
Oh, pardon, je m'y mets lentille aujourd'hui. C'est Albert. Ah, voilà.
Ah, bah donc, non, je ne savais pas. Albert Dupontel et Terry Gilliam.
Ouais, complètement.
Après, il y a pas mal de choses qui peuvent se rejoindre.
Il a aussi joué et travaillé avec, joué des rôles dans le film de Dupontel.
Ah bon?
Si, et même dans Adieu des cons.
Ah bon, ok, et d'accord. Oui. Ah, je ne savais pas du tout.
Il joue le rôle du chasseur.
Ok.
Donc, ils ont vraiment une amitié qui date depuis très longtemps et ils s'apprécient beaucoup le travail de l'un et l'autre.
Très bien.
Voilà l'anecdote.
Bon, belle anecdote.
Ouais. Mais le film, génial. Et vraiment, il faut le voir. Oui. Je le dis à chaque fois. Si vous aimez un petit peu le style et le satire des Monty Python.
Moi, je vais le regarder.
Ah, bah oui, moi aussi, ouais, parce que ça manque à ma culture. J'adore les Monty Python, j'adore Terry Gilliam, et je m'aperçois que, donc, que je n'ai pas vu, je te confirme, ce Bandit qui était sorti en 1981. Oui.
Mais note que Terry Gilliam, il est américain.
Ah bon, il est américain?
Eh oui.
D'accord, oui, ok.
Ouais, ouais, ouais.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour ce clin d'œil à l'année 1981 à travers ce film Bandit, puisque je rappelle aux auditeurs que nous sommes dans une émission spéciale 40 ans de la radio libre. C'est ce que nous fêtons cette semaine à l'antenne de RPL. Et alors, ben, écoutez, il nous reste quelques minutes seulement pour faire ce dont je vous ai parlé en début d'émission, c'est-à-dire essayer de faire une petite rétrospective cinématographique de l'année 1981. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures parce que je vais dérouler, je pense. Alors, je vais commencer par les films américains. Hein, donc, c'est plutôt un bon cru, 1981. Il y a eu des bons films avec À nous la victoire. Bon, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup qui raconte l'histoire de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, anglais et américains, qui vont organiser un match de foot contre les Allemands. Et puis, ça va être une occasion de s'évader. Bon, voilà, il y a Stallone qui joue dedans, mais il y a Pelé, surtout pour les amateurs de foot. C'est assez intéressant de voir Bobby Charlton, etc., de vrais joueurs de foot, des vrais stars de foot, se mettre des costumes de la Seconde Guerre mondiale et jouer au foot avec Stallone, c'est un peu particulier, mais ça le fait bien. Les Aventuriers de l'Arche perdue, évidemment, c'est sans doute le plus gros succès commercial de cette année-là, mais aussi l'excellent Blowout de Brian De Palma, de mémoire, avec John Travolta, très bon film à suspense. Le Facteur sonne toujours deux fois, et alors aussi, ben, quand même, c'était une période où l'érotisme était encore plutôt en vogue, donc il y a La Fièvre au corps, notamment L'Amant de Lydie Chatterley, voilà, pour ceux qui... bon, bref. La folle comédie aussi, La folle histoire du monde de Mel Brooks, un film complètement délirant.
Ah oui, ça c'était chouette.
Et alors en cherchant, je suis tombé sur un film qui s'appelle La Grande Zorro. La Grande Zorro. Le titre original c'est Zorro, The Gay Blade. Et donc en gros, c'est Zorro qui. C'est le fils de Zorro qui doit prendre la relève de son père, mais il n'est pas tout à fait à la hauteur, donc il va demander à son demi-frère qui est très efféminé de le remplacer, tout ça. Bon, ça a l'air complètement délirant. Bref. Et un dessin animé culte, Rox et Rookie, que j'ai vu avec ma maman au cinéma. J'en garde un souvenir ému. Mmh. Mais la production américaine, quand même, à cette période-là, ce qui cartonne, il faut le dire, ce sont les films d'horreur. Voilà. J'ai regardé un peu les productions américaines de cette période-là. On a Evil Dead, par exemple, cette année-là, qui est un grand succès. On a Hurlement, Halloween 2. Donc, bon, ça avait déjà commencé un peu avant, mais Halloween 2. Et surtout, film que. Alors, moi, j'aime pas les films d'horreur, mais Le Loup-Garou. ou de Londres, je l'ai vu, et je trouve que dans le genre, c'est un très bon film. Donc, je ne vous les cite pas tous, hein, parce que des films d'horreur, en regardant la production, il y en a énormément, donc ça cartonnait à cette époque-là. Ouais. Film du côté français, on a eu aussi, figurez-vous, quelques films d'horreur, je ne savais pas.
Mais on sait faire ça.
Bah écoute, il y a un film en tout cas qui s'appelle Le Lac des Morts Vivants, et c'est français.
Tout de suite,
voilà, Le Lac des Morts Vivants. Possession, quand même. Terreur cannibale, film français, alors je me demande bien ce que ça peut donner.
Il y a eu beaucoup de nanars.
Voilà. Alors, mais justement, on va en parler des nanars. On va en parler. Terrible. Parce que là, ce sont plutôt peut-être des nanars horrifiques, hein, un assassin qui passe, un étrange voyage, voilà. on a aussi les versions érotico-presque pornographiques. Hein, Blanche Fesse et les Sept Mains, ça existe vraiment.
Ça a vraiment existé.
Oui, c'est, ça date de cette année-là, en fait.
Quoi.
1921. Et bon, alors, il y a eu hein, des chefs-d'œuvre, hein, les uns les autres, Coup de torchon, La femme d'à côté, Garde à vue, très très beau film. Au niveau international, La guerre du feu, qui est de Jean-Jacques Hano, qui est un film français, mais qui a cartonné international. Hôtel des Amériques, et puis on a aussi le duo Delon-Belmondo qui fait le job et qui remplit les cinémas avec Pour la peau d'un flic ou Le professionnel. La grande spécificité, tu parlais des nanars, et ben c'est un peu ça. Hein. Le bahut va craquer, belle blonde et bronzée, les bidasses aux grandes manœuvres, un film qui s'appelle Fausse les faire, c'est légionnaire. Voilà, les surdoués de la première compagnie, donc là on a un mélange de genre de comédie. Le jour se lève et les conneries commence. Ça s'appelle vraiment, ça existait. Tais-toi quand tu parles. Prends ta Rolls et va pointer. Le roi des cons. Alors ça, je pense que ça devait être avec Francis Perrin, à mon avis. Fais gaffe à la gaffe. Alors ça, je me demande s'il y a eu un film assez catastrophique avec Michel Leb inspiré de Gaston Lagaffe. Je me demande si c'est pas ça. Alors après, derrière des titres de films un peu, comment dirais-je, ridicules comme ça, se cachent quand même des bons films. Je pense notamment au film qui s'appelle Les hommes préfèrent les grosses. Alors comme ça, on pourrait dire c'est un nanar, tout ça. Mais c'est plutôt un bon film de Josiane Balasco, adapté d'une pièce de Josiane Balasco d'ailleurs avec Louis Rego, une bonne comédie française. Ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Titre aussi qui a l'air comme ça, mais c'est plutôt de la bonne comédie française.
Avec Michel Blanc,
Michel Blanc, tout à fait. Donc il y a eu, et puis bon, la soupe aux choux aussi, 1981. Et donc des titres un peu bizarres parfois, mais qui ont pu donner quand même de bons films. Le Maître d'école aussi avec Coluche, plutôt une bonne comédie. Donc le cinéma français, même si on a eu des beaux films comme ceux que j'ai pu citer, c'est surtout de la comédie à ce moment-là. Mais bon, voilà, il y a des films qui sont devenus des classiques malgré tout. Hein.
Les années 80 sont vraiment très très prolixes en films nanardesques. Et même 81, là j'en ai un sous les yeux, Jaguar Force, Thunderbolt, donc je me rappelle plus, mais ça devait être un film d'action.
Ouais.
Et bah forcément, il y a les Star Wars qui sont sortis. Il y a eu plein de copies de Star Wars, notamment en 82, L'homme qui sauva le monde, un film turc qui s'appelle Turkish Star Wars, qui est.
Oh my god!
C'est incroyable.
D'accord.
Tu ça.
Ouais. Non, mais on se fera une émission spéciale nanar parce que je pense qu'il y a de la matière assurément sur le sujet.
Là, il y avait juste, je fais la parenthèse avec Sylvain Shelton et puis Gérard Jugnot. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. C'est une histoire d'une sorte de petit braquage de banque en dessous d'une gare à Paris.
Dans les toilettes avec Bernard Blier et Michel Serrault.
Exactement.
Ouais, voilà. Et Sylvain Shelton joue la dame pipi.
Exactement. Et ce film est. Il est pas nul quoi.
C'est une bonne comédie. Moi j'aime bien. Je suis assez comédie franchouillarde, hein, donc ça me va très bien. Et bon bah la chèvre, je l'ai pas cité, mais c'est un peu le summum du film humoristique de cette année-là. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans faire une petite parenthèse quand même sur les films qui parle de la radio, puisqu'on est sur cette thématique des 40 ans de la radio libre. Spontanément, comme ça, il y a des films qui parlent de la radio qui vous viennent à l'esprit. Vas-y.
Ah, il y en a deux.
Vas-y.
Mais je ne connais pas les titres en français. Avec Robin Williamson.
Alors, Robin Williams
oui,
ou
Robin
Good
Williams.
Morning Vietnam.
Yes.
Voilà, j'allais dire ça aussi.
Ouais. Good Morning England.
Oui.
Sur le bateau avec Radio Orange.
Voilà. Alors là, pour le coup, Good Morning England, c'est carrément un super hommage à cette thématique d'aujourd'hui, puisque c'est vraiment la radio pirate, c'est avant la radio libre. Hein.
Ouais.
C'est donc pour les auditeurs, c'est une radio anglaise, britannique en tout cas, qui était basée sur un bateau en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni et qui émettait sur l'ensemble du royaume, mais de façon illégale, mais qui diffusait du rock, etc. Donc, c'était Radio Carolina, de mémoire.
C'est ça, voilà.
Voilà. C'était bon, ce
film. Robbie Williams, évidemment. Ouais.
Good morning, Vietnam. Voilà.
Mais je pense que ça peut donner à plein de gens envie de faire de la radio.
Ah oui.
Oui, et puis ben, faites le lien avec le cinéma si vous avez envie de faire de la radio. Il y a plein de films sur la radio, en fait. Je ne vais pas tout solliciter, mais. Et je terminerai par un film que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse. Qui s'appelle Pump Up the Volume. Ça vous dit quelque chose ou pas? Avec Christian Slater. C'est un film de 1990 où c'est un mec qui arrive dans une petite ville américaine et qui, bon, il a un peu de mal à s'intégrer et il va créer une radio pirate dans sa voiture. Beau film sur le sujet. Eh bien, les amis, nous arrivons au terme de l'émission.
Déjà.
Eh oui, ça passe vite quand on s'amuse. Hein. Merci beaucoup pour votre participation. Avec Merci
plaisir.
Michel.
Ouais, c'est un
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Anthony.
Bah, la semaine prochaine.
Eh bien, écoute, j'espère bien. Et JS, bah, c'était un plaisir de
Merci
t'accueillir.
Ouais. À bientôt.
J'espère que tu as apprécié les Carrément. Studios.
Ah, bah oui, j'aime bien. C'est très sympathique. Et puis, bah, l'occasion pour reparler Cinoche.
Eh bien, écoute, tu connais l'adresse
oui.
maintenant.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On se quitte, eh bien, en laissant, comme d'habitude, la parole à notre ami Quentin Tarantino. Vive
la cinéma. Maman disait toujours. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Mais t'as l'air de voir French.
Tu vas en mettre une bûche?